Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Schelcher, le PDG de Système U. Bonjour Dominique.
Bonjour Alice.
Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte. Tu me permets de te tutoyer, ça ne te gêne pas ?
Aucun souci.
Parfait. Moi déjà, j'ai envie de savoir qui tu es. Ton parcours scolaire, tes passions en fait. Juste que tu me racontes un peu qui tu es avant qu'on parle de Système U, parce que c'est toi qui es en face de moi, c'est pas la marque.
Absolument. Alors, peut-être le premier mot, c'est que je suis un entrepreneur avant tout, d'accord ? Donc quelqu'un qui entreprend, qui a sa propre entreprise, sa PME, avant d'être le dirigeant de Système U. Et tout a commencé en fait par le fait que je suis fils d'épicier.
Est-ce que c'est un nom d'épicerie connu ou...
Fils d'épicier à la campagne, en Alsace, avec deux parents qui ont commencé très jeunes à reprendre une épicerie de 20 mètres carrés. Où ils vendaient tout en vrac, où il n'y avait pas de frigo à l'époque, où les premiers yaourts sont arrivés, peut-être servis à la louche. Enfin bon, vraiment, les balbutiements du commerce. Et j'ai grandi là-dedans, donc dans une épicerie qui elle-même n'a cessé de grandir, et dans laquelle j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai 11-12 ans, je passais mes vacances là-dedans, voilà. Et donc à 15 ans, après avoir fait beaucoup ça, et après avoir beaucoup observé mes parents, je me suis dit... En fait, jamais je ne ferai ce métier. Et donc...
Pourquoi?
Parce que c'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail, tout le temps. Mon père jeune, je l'ai très peu connu et je me suis dit que c'est pas ça que je voulais vivre. Sauf que c'était le monde de l'épicerie de l'époque, que c'était un monde en transformation dans lequel effectivement les gens étaient impliqués à fond et qu'aujourd'hui le monde a bien changé et que tout ça a évolué. Donc je suis parti faire une école de commerce, loin de ma région, l'Alsace. J'ai fait l'ESCA à Angers.
Ah, moi aussi. Oui, je ne savais même pas. Moi aussi, j'ai fait l'ESCA d'Angers, donc j'ai vécu à Angers. C'est très drôle.
Ah, bah, je ne savais pas non plus.
La coïncidence.
Donc, une école qui m'a bien ouvert sur beaucoup de choses. J'ai profité à fond de toutes les possibilités de stage.
Qu'il y avait déjà le Port de Lille à l'époque?
Le
Port de Lille avec les rillettes de Marivonne et le vin et le rosé de Marivonne.
Non, ça me dit rien. Je me souviens de.
On n'avait pas encore.
De la boîte de nuit qui s'appelait La Cabane et dont tous les escaliens parlent.
Plus la même, moi. Bah bon, bref.
Bref. Et donc, j'ai bien profité de cette école, de toutes les expériences sur lesquelles elle m'a ouvert. Et je suis tombé dans un truc qui m'a bien plu, c'est la presse. Et donc, en fait, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la presse quotidienne régionale, pour être très précis. J'ai fait un stage au journal Ouest France, assez long, premier quotidien de France. Et en fait, mon premier job, loin de la distribution, c'était au marketing du journal L'Alsace à Mulhouse, donc un grand quotidien régional. Où j'ai été recruté par Rémi Pfimelin, l'ancien patron de France Télévisions, qui était à l'époque patron de presse quotidienne régionale. Et ça a été mon premier patron. Et j'ai vécu de belles années dans cet univers-là. J'ai découvert le monde des journalistes, de la presse.
Un monde assez dur, non, quand même?
C'est un monde, assez dur. Et je trouve d'ailleurs qu'il est, pour le suivre encore de plus en plus, pas facile d'être un journaliste et de percer. Et voilà, donc quelques belles années, mais au bout de ces années est arrivée une question qui a été, est-ce que t'es vraiment finalement heureux là-dedans et est-ce qu'il te manque pas quelque chose? Et il y a quelque chose qui me manquait en fait, c'était ma liberté et mon indépendance, celle d'être mon propre patron.
Je me retrouve aussi là-dedans, c'est énorme, on a le même parcours, mais je suis pas encore PDG de Système U, mais peut-être voilà. Que ça viendra.
Et donc, j'étais rattrapé par ça. À ce moment-là, mes parents avaient besoin d'aide dans leur entreprise qui avait elle aussi grandi. Et donc, j'ai dit, ben, je plaque tout et j'y retourne. Et j'y retourne à la base. J'ai tout refait. Pendant un certain temps, je venais à 5h du matin, hein, comme ça se fait dans notre métier. J'ai tout redécouvert puisque bosser à 15 ans et bosser... Pour redevenir le patron, c'est pas la même chose. Donc j'ai tout repris à la base. J'ai fait mes classes en fait pendant quelques années jusqu'à reprendre cette entreprise familiale en fait. Voilà, j'ai fini par la reprendre, par la racheter. Et en parallèle, je me suis impliqué dans la vie collective de U, puisque U, je rappelle, et c'est ça qui est important, c'est une coopérative de commerçants indépendants, d'accord ? Chaque magasin est la propriété d'un patron indépendant, c'est son patrimoine, c'est son entreprise, c'est lui qui la développe.
Donc, il y a juste la marque qui est attribuée au magasin.
Voilà, et il adhère à une centrale d'achat qui est Système U, qui lui fournit des produits et des services. Et cette coopérative, cette centrale d'achat est dirigée par des patrons de magasins, par un conseil d'administration qui élit son président, etc. Et donc il y a toute une organisation comme ça qui est très démocratique, où finalement un homme égale une voix, donc on est très démocratique chez eux. Et au bout du compte, à force d'avoir, après avoir tout fait dans le magasin, j'ai tout fait dans la coopérative jusqu'à en devenir le président par le choix de mes collègues de manière très démocratique, voilà. Et en 20 ans, il m'aura fallu 20 ans.
Et du coup, tu as abandonné ton épicerie ?
Pas du tout. J'y suis tous les week-ends. Voilà, je passe ma semaine à Paris et en fin de semaine, je suis dans mon supermarché, puisque aujourd'hui c'est un supermarché, au bord de la frontière allemande. Et c'est ce qui fait notre différence. Ça veut dire que quand je reviens à Paris le lundi, en fait, je viens riche de mes échanges avec mon équipe sur le terrain, mes clients que j'adore... Et les grandes décisions qu'on prend, on les prend en toute connexion du terrain. Et si U aujourd'hui est résilient sur le marché, qui est un marché du retail français difficile, c'est beaucoup pour cette raison-là. Parce qu'on est des hommes et on est resté des hommes de terrain, en prise avec la réalité de nos clients, de nos collaborateurs, de ce qu'ils vivent eux-mêmes sur le terrain. Et donc, nos décisions font la différence. Je pense que c'est une clé essentielle.
Et tu me parlais du coup du vrac, etc., des yaourts à la louche, mais tu sais que ça, c'est une démarche RSE à laquelle on revient de plus en plus. Est-ce que toi, chez Système U, justement, c'est quelque chose que tu essayes de faire
Mais absolument, mais le commerce est un éternel recommencement. Et la réflexion que tu viens de faire, c'est celle que je me fais très souvent en ce moment. En fait, on est en train de revenir aux basiques fondamentaux. Exactement. Et le commerce, ça n'est que ça. Mes parents, quand ils ont démarré, il y avait très peu d'emballage, il y avait pas de plastique, c'était des sachets en papier, c'était où les gens venaient sans doute déjà aussi avec leur contenant. Et aujourd'hui, on revient à ça. Mais ça, on l'a oublié parce que pendant des années, on a développé par commodité, par facilité et sans penser à l'après et à demain. Des facilités qui aujourd'hui qu'il faut remettre en cause. Et donc oui, c'est un éternel recommencement.
Et par exemple, concrètement, au sein de Système U, qu'est-ce que t'as mis en place ?
Alors, on a vraiment un plan très complet au niveau de U en termes de responsabilité sociale. Je dirais il y a 4 axes. Le premier, c'est que la base de la base, avant de venir aux responsables, c'est que les gens veulent manger sain et manger mieux. Que peut-être il y a quelque temps. Il y a un problème de confiance actuellement dans les grandes marques internationales, dans les produits qui ne racontent pas d'histoire. Et donc, notre premier axe depuis le début des années 2010 particulièrement, mais ça fait très longtemps qu'on le fait, c'est par exemple pour notre marque U, puisqu'on a une marque distributeur qui s'appelle la marque U, on l'a nettoyée de toutes les substances controversées qui font polémique sur le marché.
Donc dans les recettes de produits, c'est ça ?
Dans les recettes de produits. D'accord. On a éliminé 90 substances controversées. C'est un boulot de fond qu'on fait depuis 2012. Là, il y en a quelques-uns qui affichent ça récemment. On élimine les substances, mais on a sans doute été les premiers sur le marché.
Maintenant, tu mets le rating aussi. Tu sais, A, B, C, D, c'est le rating.
Ça, c'est le Nutri-Score. Exactement. Ça, c'est encore autre chose. Mais bref, tout... toute cette recherche de notation, cette élimination des substances, on est dessus depuis très longtemps. Donc particulièrement pour les produits U, et on continue. Et après le manger mieux et plus sain, se rajoute maintenant une autre dimension qui s'est accélérée depuis un an, c'est manger responsable. Et manger responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire avec moins d'emballage, avec une empreinte carbone plus faible. Et par exemple, un grand appel au circuit court. On a fait une grande enquête au début de l'année avec make.org dans le cadre d'une grande coalition. On n'est pas tout seul. On a interrogé, il y a 400 000 Français qui se sont exprimés pour dire c'est comment vous voyez le commerce demain, c'est quoi vos attentes. La première chose qu'ils nous ont dit de manière très forte, mais plus forte que jamais, c'est proposez-nous des produits en circuit court. Plus que jamais, on veut que l'empreinte sur la planète soit la plus faible possible. On veut connaître les ingrédients et tout ça. Et donc,
la transparence.
La transparence. Tant mieux, parce que c'est ce qu'on propose depuis longtemps. Donc, sur le manger responsable, on a un grand plan actuellement de remise en cause de nos propres emballages autour de la marque U. On va vers le carton dès qu'on peut. C'est pas toujours facile. Par exemple, une plaquette de jambon, on fait comment ? On en vient même à se poser la question, est-ce que demain, l'avenir du jambon dans les magasins, c'est pas de revenir que au rayon traditionnel,
au boucher,
à la coupe.
Ouais, c'est vrai.
À la coupe. Alors, il se trouve que chez U, on propose très souvent les deux, pas à Paris. À Paris,
Et du coup, les systèmes U, d'ailleurs, c'est des magasins de proximité ou c'est plutôt des supermarchés ?
Alors, 1600 magasins en France, 800 supermarchés et hypermarchés, mais on en a que 66 hyper, et donc 800 de proximité qui s'appellent la proxy s'appelle chez nous Utile ou U Express.
D'accord. Parce que tous les grands retailers, puisque moi je travaille chez Carrefour, fermaient les hyper pour se rapprocher, pour faire des Carrefour City, des Carrefour.
Alors la chance qu'on a, on a que 66 hyper qui sont à taille humaine. Donc chez nous, ils ne connaissent pas la crise. Après, le cœur du réacteur chez U, c'est le supermarché, on va dire 3000 mètres carrés. À 50%, on est dans des communes de moins de 5000 habitants. Donc vraiment, on est dans les territoires et là, on est des lieux de vie. Et là, il n'y a pas de remise en cause de la taille. Les gens sont heureux. Venez chez nous ou venez même dans le mien samedi matin à 10h30. C'est le lieu de vie. C'est là que les gens boivent un café. C'est là qu'ils se retrouvent. C'est là qu'ils parlent au boucher.
Je sais qu'à Bernières-sur-Mer, mon grand-père, il va assister à mieux.
À Paris, on nous connaît par la belle-mère, le magasin de la belle-mère ou le magasin des vacances. Donc, c'est tout à fait ça. Je confirme. Parce qu'on est un peu moins présent à Paris et on a décidé de ne pas se lancer, nous aussi, dans la bataille de Paris, qui est extrêmement coûteuse et il y a déjà beaucoup d'acteurs en place. Non, donc pas de sujet de grand hyper chez U. On est des magasins de toute façon de proximité et on travaille là-dessus. Mais pour revenir à ta question, donc outre les emballages, on a un gros travail sur tout ce qui est le transport. Par exemple, là, on arrive avec les camions à gaz sur Paris. On réfléchit déjà, est-ce que l'après électricité ou gaz, c'est pas les camions à l'hydrogène demain ? Donc on est déjà sur ces sujets-là. Évidemment, il y a tout le sujet de la réduction du gaspillage aussi en point de vente, faire en sorte que on jette le moins de choses.
Comment vous faites ça du coup ? Ouais, les applications ?
Il y a plein de choses. La première et la plus courante aujourd'hui, c'est que toutes les dates courtes sont vendues à prix cassé pour le client, qui se précipite dessus. C'est quelque chose que les clients adorent parce qu'ils ont le sentiment à la fois de faire une bonne affaire et en même temps de limiter l'impact de ce qu'on jette. Après, il y a des applis.
Nous, dans l'empreinte, on a eu la fondatrice de Too Good To Go, justement. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel
on a des magasins qui travaillent avec Too Good To Go et ça marche très, très fort.
Et c'est le choix du coup du directeur du magasin.
Voilà. Puisque chacun est indépendant, on a ce qu'on appelle chez U des référencements où on préconise à tel ou tel tarif un service, mais les gens prennent ou ne prennent pas.
D'accord.
Sauf que quand le service est très bon, ça fait vite feu follet dans le réseau, il n'y a pas de problème.
Super.
Voilà, un troisième point, c'est derrière tout ça, il faut une relation durable avec le monde agricole. Donc une des marques de fabrique de U, c'est de beaucoup contractualiser avec le monde agricole de manière privilégiée pour la fabrication de la marque U. Et dans le débat actuellement, loi alimentation, on dit oui, mais y a un acteur qui est oublié dans la discussion, c'est le monde agricole. Nous, justement, quand on signe, on essaye de signer à trois. Je m'explique, il y a eu autour de la table, il y a un transformateur, parce que donc une usine, par exemple, qui fabrique les yaourts, et des coopératives laitières qui alimentent en lait. Là, par exemple, ça, c'est un accord qu'on vient de signer. Donc, pour tous les yaourts à la marque U fabriqués en France, on a signé avec 4 coopératives laitières, un prix minimum en dessous duquel on ne descendra jamais, même si les cours baissent. Ils auront chez nous un prix garanti. Ils ont des primes de qualité si le lait est exceptionnellement bon. Et ils ont surtout une prime de cahier des charges. On leur propose un cahier des charges qui s'appelle Bleu Blanc Cœur.
Qui est connu, qui
lie bien-être animal, qualité de l'alimentation. Tout ça a un impact sur la santé humaine. S'ils répondent bien à ce cahier des charges, ils ont une prime. Donc, ils sont mieux payés que le cours du marché. Et donc, voilà, on essaye à tout moment chez U de multiplier comme ça les accords tripartites avec un certain nombre de coopératives ou d'acteurs agricoles qui fait que ces gens sont mieux rémunérés que le cours du marché.
Et est-ce que d'ailleurs, vous distribuez la marque C'est qui le patron ? Ou pas. C'est peut-être un choix de pas le faire, hein. Mais comme je sais qu'on a eu aussi Nicolas Chaban.
On commercialise particulièrement le lait, mais après
vous l'avez quand même le lait.
Mais après, comme nos démarches sont extrêmement proches de celles de C'est qui le patron.
Oui, du coup, il y a plus, du coup,
on fait beaucoup la promotion dans nos magasins de nos propres démarches. Voilà.
Ce qui est normal, ce qui est légitime.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, vous reconnaissez, je suppose quand même dans cette marque, qui est pas vraiment finalement une marque, c'est presque une coopérative. Est-ce que vous m'expliquez, c'est plus une coopérative?
Alors non, la marque U est une marque aujourd'hui.
Ça reste une marque, oui.
U a grandi. Au départ, c'était des petites coopératives d'épiciers qui se sont rapprochées jusqu'à faire la grande coopérative Système U aujourd'hui, qui fait aujourd'hui on a frôlé les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. D'accord. Mais c'est l'association ultime de tous ces petits commerçants. Ces gens à un moment dans les années 70 ont décidé années 80, de lancer leur marque, la fameuse marque U, qui au départ était une marque comme les autres marques distributeurs et tout ça. Sauf que cette marque a grandi, qu'on est bien loin des débuts où nos produits, c'était simplement des copies des grandes marques.
Oui, puis souvent de moins bonne qualité.
Moins bonne qualité. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a du marketing, on a de la créativité, on définit nos propres recettes et on va chercher les propres fabricants qui vont fabriquer nos produits U originaux.
Et comment changer alors comme ça les mentalités qui, au début, achetaient de la MDD, puisque c'était la marque distributeur, ouais, et l'achetaient un peu par défaut, et comment les faire acheter par envie finalement cette marque distributeur ?
Mais par la qualité, par le travail qu'on a fait sur les recettes. Moi, l'idée, c'est que quand on achète un produit dans un de nos magasins, on l'achète en toute confiance, parce que les gens savent qu'on a fait un travail sur la recette, qu'il est bon. Que demain l'emballage sera encore meilleur, voilà, un achat en confiance et véritablement d'une marque. Donc non, U aujourd'hui est une marque qu'on défend, qui est extrêmement fidélisante. Les gens en général, quand ils ont goûté les produits, ils les rachètent et on fidélise beaucoup avec ça.
J'en rappelle de la Torgoule justement en Normandie. La Torgoule.
Par exemple.
C'est un truc qui est pas à Paris. Alors là, typiquement, ce plat-là.
Quand on dit on fait un travail en profondeur, notre pâte à tartiner au chocolat est sans huile de palme.
Ouais, c'est bien ça.
Elle est sans huile de palme. On a fait un gros travail. On a trouvé aujourd'hui une recette. Et faites goûter aux enfants autour de vous. Vous verrez, elle est parfaitement bien notée, cette pâte à tartiner.
Et quels sont vos prochains challenges alors ?
Alors les prochains challenges, alors il y en a.
Ça peut être aussi sur l'épicerie. Ça peut être sur.
Alors le premier challenge auquel on a à faire face aujourd'hui, c'est le e-commerce alimentaire, d'accord, qui dans nos meilleurs magasins prend 10% du marché, qui sans doute va aller vers 15, peut-être 20 dans quelques années. On a aujourd'hui la moitié de nos magasins qui ont des drives, donc on est à fond sur le créneau, et ne pas avoir ce service-là, même à la campagne, c'est pas possible. Donc on propose ça et on y est à fond. On a revu notre site, on a revu notre appli. Ça, c'est premier challenge. Mais notre conviction derrière ça, c'est quand même que dans l'alimentaire, je dis bien dans l'alimentaire, je parle pas du non-al, 80% du business va continuer à se faire en magasin physique. Et donc, la clé pour nous, c'est, et les challenges de demain, c'est bien former nos collaborateurs, parce qu'on croit que le commerce de demain, il sera avant tout humain. Quand j'entends, oui, il y aura bientôt plus de caissières et tout, pas chez U.
Et puis moi, je suis pas forcément d'accord non plus avec cette analyse-là. On irait plus vers des magasins digital, c'est-à-dire qu'en fait, on va digitaliser les stores, mais plus humaniser, continuer l'humain. Les gens ont besoin de contact.
Complètement. Les gens ont besoin de contact et nous le disent et nous le réclament. Ils ont la caissière, ils ont le bon boucher avec qui ils ont des habitudes, à qui ils n'ont même plus besoin de dire comment faut couper le steak. Y a donc derrière ça le sujet des métiers du frais, la différence, le bon filet de poisson, le bon steak, le bon fruits et légumes, vous le trouverez plus difficilement en ligne chez les autres, donc autant faut, voilà, tout faire pour attirer là-dessus. Et après, accompagner toutes les tendances actuelles, le vrac effectivement explose, non seulement pour moins d'emballage, mais parce qu'il y a une vraie appétence pour ces produits-là qui en rapport qualité-prix
sont, moins cher, oui, c'est ça.
Sont très bien. Et après, apporter un certain nombre de services de transparence. On a lancé une application qui s'appelle Y'a quoi dedans. On travaille là sur une prochaine version qui fait la transparence sur les recettes de produits. Y a-t-il ou non dans tous les produits du marché, pas que les nôtres, des substances controversées, oui ou non? Et donc, on dit, il y en a ou il y en a pas.
Et donc, c'est vous qui l'avez lancé carrément l'application?
Ouais, l'année dernière, et elle a un certain succès.
C'est top, ça.
Ouais, voilà. Donc, c'était notre façon de dire, attendez, nous, on a fait un gros travail, mais regardons tous les produits du marché. Donc, voilà, c'est un concurrent à la grande qui est très connue, avec laquelle on ne veut pas rivaliser, mais on apporte notre petite pierre à l'édifice de la transparence et de la connaissance du client, parce que vraiment, les gens attendent ça. Et après, et dernier point, mais on l'a largement compris, je pense, à travers ces propos, aujourd'hui, pour moi, c'est presque plus la digitalisation de l'entreprise qui est importante, parce qu'on est dedans, on agit et on continuera à rendre le parcours client de plus en plus fluide entre magasins physiques et digital. Le sujet demain, c'est une entreprise au top de sa responsabilité sociale et environnementale qui prend des engagements sur plein de points, tels que j'ai pu les décrire, et notamment qui... Chez nous, il y a un débat dans le métier de l'éternel prix bas qui tire tout vers le bas. Nous, on essaie de viser un prix bas juste et responsable pour toutes les parties prenantes. Et il faut que le producteur de la bonne matière première française y trouve aussi son compte. Donc, on n'est pas les seuls, c'est pas toujours facile, mais on essaie d'apporter notre pierre à cette bataille-là.
Merci Dominique. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ?
Bienvenue prochainement dans un magasin U pour voir sur le terrain tout ça. On n'est pas les plus représentatifs à Paris, mais il y a pas de souci.
Faut descendre un petit peu.
Ouais,
monter,
faut descendre. Ça dépend, ou aller sur les côtes. Exactement. Ou à l'est. Pas de problème.
Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'empreinte. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Bababam et Spotify. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis recommandez-moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.